Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Après une longue absence due à Purim, Baruch HaShem, et du Tioul, effectivement. Et voilà. Et donc, Baruch HaShem, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Quoi, on dirait que t'es pressé de quelque chose. Moi, j'étais large, hein. On a terminé le Shlishi. On arrive dans le Revi. Exactement. Alors, les amis, donc on revient dans le livre de Shemot. Nous sommes au chapitre Yud-Tet, verset Aleph. C'est le Revi de la paracha de Yitro. Et pour ceux qui auraient des Chumashim blancs, eh bien, ça se trouve à la page 85. Mais vu que ça change selon les Chumashim, eh bien, on s'en fiche. Ok. Exactement. Ok, alors c'est parti. Bon, évidemment, chapitre Yud-Tet met en place, eh bien, les événements du Mahamad Ar-Sinaï. On met en place ici les événements du Mont Sinaï. Voilà, ça y est, c'est parti. Bachodesh Ashelishi, le Tzet Bene Israël Me'eretz Mitzrayim, Bayom Haze, Baou Midbar Sinaï. Nous, donc on est quand ? 3 mois après la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire, on est sorti en Nissan, Iyar, Sivan, alors
Tamouz.
Ah, oui, mais c'est un problème. Parce que on est censé avoir le Mahamad Ar-Sinaï quand ? Le 6 Sivan. Donc comment faire ? On dit Bachodesh Ashelishi, le Tzet Bene Israël Meret Mitzrayim. Est-ce que ça veut dire que c'est 3 mois plus tard? Non. C'est le 3e mois par rapport à la sortie d'Égypte. Nissan étant le 1er mois, le 2e mois c'est Iyar, le 3e mois c'est Sivan. Donc ici ça ne veut pas dire que ça fait 3 mois qu'on est sorti d'Égypte, c'est le 3e mois compte tenu de la sortie d'Égypte qui a fixé le calendrier. D'accord? Donc, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויצאו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. סיכון?
לפרומי מועד,
פרומי מועד ניסן. פרומי מועד ניסן. לא, אני לא יודע, לתרוע זה מועד. נמצא דרך, הוא נקל שור, אקזקטמון. ראש חודש סיוון. Okay, on est Rosh Chodesh Sivan. Comment on sait? Parce qu'il y a marqué Bayom Azeh. Et vu qu'on t'a dit il y a 2 secondes qu'il s'agissait du Bachodesh Hashelishi, quand on te parle Stam Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Donc on est le premier du mois de Sivan et on vient d'arriver au pied du mont Sinaï. On ne revient pas dans notre débat de savoir où c'est le mont Sinaï. J'ai vérifié pour l'occasion. Parce que je ne me rappelais plus combien il y avait d'avis qui avaient été émis par les différents chercheurs. On est aujourd'hui à 8. On est à 8 avis différents de où c'est Ar-Sinaï. 8 dans le Rav Google.
Mais parmi les 8, il y en a qui sont...
Il y en a qui sont beaucoup plus... Il y en a qui sont absolument... Et il y en a qui sont assez plausibles, probables, même si chacun... ont des contre-arguments. Il existe forcément un Mont Sinaï, c'est sûr. Maintenant, où est-ce qu'il est? C'est toute la question. C'est-à-dire, on va dire que les deux avis les plus probables, bien qu'ils ne soient pas du tout à côté de l'un de l'autre, il y en a 3. Il y en a un qui voit le Mont Sinaï dans le désert du Sinaï, okay, dans ce qui aujourd'hui est appelé par le... comment dire... le Minzar, le hein, comment tu dis, non, ouais, c'est le monastère de Santa Catarina, de Sainte Catherine, les moines, je n'ai pas entendu. Donc ça, c'est un des avis qui mettrait donc le Ar-Sinaï dans le sud de la péninsule du Sinaï. Ouais, mais tu veux vérifier quoi? Tu veux vérifier une montagne? Non, alors dans les fouilles, c'est vrai que là-bas, il y a un afflux important de culte. C'est-à-dire que c'est un endroit qui, dans l'histoire, proche et moins proche de l'époque de Moshé Rabbeinu, c'est un endroit qui était cultuel. Ensuite, vous avez le mont Karkoum, qui se trouve dans le désert du Negev actuel, à côté plus ou moins de... pour vous donner un repère, on est plus ou moins sur la même ligne que Yotvata, pas très loin de Eilat, mais plus au centre du désert du Negev. C'est une autre possibilité. Ou alors, comme tu dis, comme tu aimes à le dire, plus du côté de l'Arabie Saoudite, qui est Midian de l'époque.
D'accord ? Oui. Avec un groupe de Paris, donc en Israël, et on
vous avez été là-bas.
Des marches pendant une heure, ça monte vers le Mont Sinaï, et on arrive au sommet du Mont Sinaï, et c'est à plomb. Hein,
oui, si c'est, c'est ça le Mont Sinaï, sinon tu as fait un beau tioul. Non ? Vous avez ça là ?
Si c'est ça le Mont Sinaï,
il y a toute une série de.
Si c'est ça le Mont Sinaï, colle à cabot. Sinon, c'est un beau tioul.
Si c'est ça le Mont Sinaï, c'est oui. Qu'ils sont entrés en Israël avant.
Ah non, ah ben non, ça dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Parce que lorsque tu appelles Israël, j'ai besoin, avant de te dire ah non, en fait c'est moi qui ai été un peu précipité, à quoi tu fais référence? Parce que si tu fais référence à ce qu'on appelle dans le livre de Bereshit, Haaretz Azot, ça c'est sûr, mais ça dans tous les cas, c'est-à-dire quel que soit l'avis qu'on va trancher, c'est dans les gvoulot, dans les frontières de ce qu'on appelle Haaretz Azot, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est-à-dire depuis le Nil, le delta du Nil, jusqu'à l'Euphrate. Quel que soit notre visu du Har Sinaï, c'est dedans. Par contre, si tu fais référence à Eretz Kenaan, ce qu'on appelle la terre de Canaan, qui est une autre promesse que Dieu a faite à Abraham, eh bien, à ce moment-là, quelle que soit la localisation, elle est Bachout, puisque la frontière sud de Eretz Kenaan passe plus ou moins, on va faire une ligne imaginaire entre Beersheba et Dimona, un petit peu plus au sud. Mais dans tous les cas, on est en dessous. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas Eretz Israël, enfin du moins, ce n'est pas Eretz Kenaan, mais c'est dans tous les cas, Haaretz Azot. Mais ce n'est pas ça qui est tellement important. En vérité, Lo Kol Kach Hashuv, pour une raison très simple, c'est que ce qui est important dans le Mont Sinaï, c'est que ça soit Bamidbar. C'est-à-dire que ce soit le Midbar que nous on appelle aujourd'hui Sinaï, ou que ce soit plus dans la région de l'Arabie Saoudite qui s'appelait à l'époque Midian, qui a son lot également de problématiques, parce que si effectivement c'était là-bas, et que donc c'est à Midian, il n'y a aucune raison que Moshe, quand il propose à Yitro de rester avec lui, eh bien il dit non, je vais retourner El Arzi, dans mon pays. Si Har Sinaï, là où se passent les événements, c'est à Midian, il n'y a pas besoin de dire non, je vais retourner dans mon pays, puisque c'est déjà son pays. Mais dans tous les cas, l'homme est chané. J'ai aucun bon argument pour dire c'est celui-là, et j'ai aucun mauvais argument pour dire c'est pas celui-là.
Par rapport au temps de marche, il y a quelque chose qui est plus positif.
Si tu dis que c'est à Midian, c'est un problème par rapport au temps de marche. Mais si tu dis que c'est dans le Sinaï, c'est un problème par rapport à Moshe qui était Be'ar Chorev quand il était berger avec Yitro. Puisque d'après la Massoret, l'endroit où il y a eu le dévoilement au buisson, c'est l'endroit du Har Sinaï. Or, Moshe, il était à Midian à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est Moshe qui a beaucoup marché? Est-ce que c'est Bnei Israël qui a beaucoup marché? Lo Hashuv. La vérité, on va dire, on ne rentre pas dans le débat, parce que personne n'a de bons arguments. Enfin, tout le monde a de bons arguments, mais pas assez bons pour dire, c'est sûr, c'est là.
Moi,
j'en ai un. Mais on sait que tu veux le voir là-bas.
Non, pas du tout.
Non?
Ceux qui vont aujourd'hui
oui.
Penser que c'est à tel endroit,
oui.
Je préfère croire ceux qui ont vécu il y a très longtemps, qui eux savaient.
C'est qui les eux en question?
Ben, Fali Joseph, il le dit clairement.
Ouais, mais alors là, le problème, c'est que...
C'était connu à l'époque, il y avait pas connu.
J'entends bien, mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de choses qui, depuis, ont été remises en cause chez Fali Joseph.
Non, mais... Que tout est remis en cause.
Non, c'est pour ça que je te dis. La vie pour Midian est aussi légitime que d'autres. Pour l'instant, on peut, il n'y a pas de psa kalaha. On ne peut pas être sûr. A priori, c'est un des deux. C'est soit Santa Catarina, soit Nueva. Ce n'est pas très clair. Vous savez quoi? on n'a qu'à faire des tioulim et là-bas, et là-bas. Comme le Seder, ça fera plus d'argent pour le guide. Maintenant, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que ce soit dans le désert, nous dit la Torah Tmima, parce que la Torah, il faut être efker comme le désert pour pouvoir la recevoir. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que justement, ce n'est pas très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute la pyrotechnique qu'on va voir maintenant pour le dévoilement au Sinaï était évidemment extrêmement importante. Mais quand on est parti du Har Sinaï, c'est redevenu une montagne. Au niveau de la halakha, il n'y a aucune kedusha aujourd'hui dans le Har Sinaï, qu'il soit là ou là. Alors que le mont Moria, ça c'est autre chose. C'est-à-dire ? Donc, justement, pourquoi est-ce que la tradition juive n'a pas mis énormément d'accent sur l'endroit du mont Sinaï ? Parce que c'est l'homme à Cheikh Hachou.
C'est cool quand même que l'endroit où Hachem s'est dévoilé, il n'y a pas une trace.
Parce que c'est justement ce que je viens de te dire, c'est pas l'endroit où il devrait se dévoiler. Qui je suis moi pour dire ça ? C'est pas moi, c'est lui qui a dit qu'il voulait se dévoiler à un autre endroit. Donc il s'est dévoilé dans le désert pour plein de raisons qu'on va évoquer, mais l'endroit idéal du dévoilement, c'est Har Moria, sur le mont Moria, au Beit HaMikdash. C'est-à-dire ? Donc quoi qu'il en soit, on arrive là-bas, Rosh Chodesh Sivan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Où Moshe alla el Elohim. Moshe est monté vers Dieu. Alors il est... Où est-ce qu'il a été ? Ah, tu dis qu'il a été sur la montagne. Donc pour toi, Dieu, il est sur la montagne. Oui, mais...
Il est monté, peut-être.
Quoi, où il est descendu ?
Voilà.
Attends, je ne suis pas encore là. Là, il y a juste marqué où Moshe Allah et la Elohim.
Le problème, c'est comment Moshe
est-il
à des milliards de kilomètres de la Terre.
Non.
Les amis, je pense que vous avez. Il faut que tu arrêtes de penser que Dieu, il est dans le monde physique. Il n'est pas à des milliards de kilomètres, parce que si tu commences à calculer la distance Terre-Dieu, tu vas forcément te tromper. Dieu, il n'est pas dans le monde physique. Il se dévoile dans le monde physique, mais il n'est pas limité au physique. Donc, il n'est pas, tu ne peux pas distancer en kilométrage la distance qui me sépare à Dieu. C'est une distance qui n'est pas chiffrable. Donc, la question n'est pas de savoir à combien de kilomètres il est. Il peut être là, comme il peut être là-bas, zélo méchané. Mais ici, on ne nous dit pas que Moshe est monté sur la montagne. On dit qu'il est monté vers Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est sûr qu'il n'est pas monté sur la montagne à ce moment-là ? Parce que, un, bon, on va nous dire plus tard qu'il va monter sur la montagne. Et deuxièmement, parce que s'il était sur la montagne, Dieu n'a pas besoin de l'appeler depuis la montagne, s'il y est. Or, la suite du verset, « Où Moshe ala el Elohim, va yikra elav asher mina » Donc ça veut dire que pour l'instant, Moshe il est monté nulle part en termes physiques. Il n'a pas, ça veut dire quoi, monter vers Dieu.
Il est monté partiellement.
Et évidemment, il n'est pas monté partiellement, il est monté spirituellement. On n'est pas encore dans la montée physique. Elle va venir, la montée physique. Bien sûr qu'il va monter sur la montagne. Mais pas encore. Pour l'instant, personne n'est encore monté. Ça va venir, il va monter. Ça va être dit clairement.
On parle.
Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça.
Pourquoi pas ?
Parce qu'on nous parle d'une montagne.
Bien sûr, mais il va y monter sur la montagne.
On nous dit qu'Hachem l'appelle
de la montagne. Donc, ça veut dire que lui, il n'y est pas encore.
On utilise le mot monta.
Oui, mais pas vers la montagne. Or, ça va venir. Il y aura marqué.
On va dire qu'après, il va venir.
Non, t'as pas compris. Tu veux pas. Il y a d'abord un moment où il va monter pour ensuite redescendre.
C'est la première montée, ça.
Oui, mais là, c'est pas une montée physique. On va le voir dans quelques minutes. On va nous dire qu'il va monter physiquement. Et on nous aura pas dit qu'il sera redescendu entre temps. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas, d'ailleurs je ne vois pas en quoi ça vous dérange, pendant toute l'année qu'on va siéger au Mont Sinaï, Dieu il va se dévoiler à Moshe et il ne va plus monter nulle part. Là, il y a une montée vers le concept que Dieu veut lui parler, oui.
Moi j'ai une question là, pourquoi ce n'est pas le même nom de Dieu aux deux endroits ?
Pourquoi
non, c'est Elohim,
non.
Et c'est Hachem qui lui parle.
Deux secondes. Parce qu'il y a la façon dont Moshe perçoit le divin, il y a la façon dont le divin veut se dévoiler à Moshe. Et bien, semble-t-il que Moshe, il n'a pas encore intégré ça.
D'accord.
De son point de vue, où Olé, elle a Elohim, mais Hachem, il lui parle.
D'accord.
C'est ça ? Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire ? ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. Alors, on est en train de poser les bases de la Torah. À qui Moshe doit parler ? La maison de Yaakov, et ensuite aux enfants d'Israël. C'est qui l'un, c'est qui l'autre ? Nous disent nos sages, Beth Yaakov, ce sont les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kot Tomar, les morts, Zemilachon Raka. C'est gentiment. Taged, Livne Israël, la guide, c'est plus dur. Et Beth Israël, Bene Israël, ça fait Taged, Livne Israël, Bene Israël, ce sont les hommes.
Il y a un changement ?
Entre eux ?
Quand on avait vu au début que Moshe va parler en Égypte, au Bnei Israël, on a vu que c'était les responsables.
Et alors ?
Quel problème ? La différence du peuple.
Oui, ben là, ça peut être aussi les responsables.
Mais le problème. Peuple a toujours été appelé maison de Yaakov, Beit Yaakov. Le peuple.
Où tu vois ça ?
Dans tout le Tanakh, c'est une
mais là, c'est la première fois.
Non, qui désigne le peuple.
Oui, mais là, c'est la première fois. Donc, tu ne peux pas encore me dire maintenant, on a déjà vu que.
Non, mais de dire que c'est les femmes.
Oui.
Pour quelle raison ?
Ah, pour la raison que c'est comme ça la tradition orale qu'on a reçue. Tout simplement. Quand Tomar le Beth Yaakov, c'est un Nashim. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Je n'ai pas de preuve marquée noir sur blanc que c'est les Nashim. C'est comme ça la tradition du peuple juif. Maintenant, ce qui est intéressant, nous dit le Kli Yakar va nous dire, c'est ne crois pas que Moshe a été parlé aux femmes et ensuite il a été parlé aux hommes. Non, non, Moshe a été parlé aux femmes, a expliqué tout ce que Dieu lui a dit aux femmes, et les femmes, Beth Yaakov, ont été dire à leur mari. Vetaged livne Israël, ce sont les femmes, Beth Yaakov, qui elles-mêmes ont été transmettre la Torah aux hommes d'Israël.
C'est,
tu as raison, c'est la raison pour laquelle Sarah Schneider, lorsqu'elle a créé en 1916 le premier Beth Yaakov, elle l'a appelé comme ça.
Quelles femmes dans ce cas ?
Les femmes d'Israël.
Toutes les femmes.
Toutes les femmes, bah, certainement, non, tu comprends bien que...
On a une population.
Mais non, mais enfin, tu comprends, c'est évident qu'il n'a pas fait un rassemblement, allez, toutes les femmes, mégaphone et tout ça. Bien sûr que de la même façon qu'il y a des représentants chez les hommes, eh bien, il y avait aussi des femmes dirigeantes, ça peut être les chefs de tribu, les femmes du chef de tribu, et ainsi de suite, ça peut être Myriam qui a rassemblé ses copines, je ne sais pas exactement qui, mais c'est évident que de la même façon que quand Moshe s'adresse à Israël, eh bien, il ne s'adresse pas à 3 millions de personnes en même temps, qui parle d'abord, sauf dans des cas où c'est spécifiquement marqué, mais sinon, Baruch qui va parler d'abord des représentants qui après vont transmettre, c'est pas un problème ça. On n'a pas besoin que ce soit toutes les femmes et enfants et jeunes filles d'Israël. Oui.
La raison pour laquelle il parle aux femmes...
Pourquoi est-ce qu'il parle aux femmes d'abord et ensuite aux hommes ? Eh bien pour la simple raison que... Vas-y, dis-moi.
Je sais pas, moi j'avais pensé à un truc, mais je sais pas du tout.
Vas-y, dis-moi.
J'avais pensé que comme...
Il a fauté, que Chava n'a pas fauté.
Il y a mal dit ce qu'il fallait faire. Il a dit tu ne toucheras pas, alors que ce n'était pas ce que Hachem a dit. Alors je pense que la faute aussi, ça a entraîné la faute. Donc il passe plutôt par les femmes plutôt que par les hommes.
Si, c'est plus sûr.
Oui.
C'est plus sûr.
Non, c'est pas.
Si on revient en Égypte, si on revient à ce qui s'est passé en Égypte, eh bien, les femmes d'Israël ont un mérite énorme parce que c'est elles qui ont amené leur mari à continuer à faire des enfants juifs. Hein? Pas seulement Myriam, c'est-à-dire Myriam et toutes les femmes d'Israël, et c'est ce qu'on va nous expliquer lorsque dans le Mishkan, les femmes vont apporter leurs bijoux, alors qu'il n'y aura plus besoin d'apporter, mais on va quand même continuer à apporter. Moshe voulait ne plus accepter de dons, et Dieu lui a dit, c'est dans les parachutes qu'on va lire maintenant, de Vayakel et Pekoudé, que Dieu lui dit à Moshe, accepte-les. Parce que, voilà, c'est grâce à ces marot at soveot, c'est grâce à ces miroirs que les femmes se faisaient belles pour aller attiser l'envie chez leur mari pour continuer à mettre en place le peuple juif en Égypte. Ici, cette Torah, elle doit être donnée au peuple d'Israël, celles qui ont eu le mérite d'être, celles qui ont permis la création du peuple d'Israël, c'est les femmes d'Israël, plus que les hommes. Donc c'est à elles qu'on va enseigner la Torah en premier lieu. C'est-à-dire ? Donc, « Kotomar levet Yaakov, vetaged livne Israël ». Alors qu'est-ce qu'il faut leur dire ? אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et je vais vous faire voler sur des ailes d'aigle, et vous amènerai vers moi, vers Ata.
C'est le futur, là.
Hein?
C'est le futur.
Pourquoi tu dis ce que passé?
Je vous ai.
Pourquoi tu dis je vous ai?
Non, c'est au futur. C'est au futur.
J'ai pas compris. Quel est le problème? Atem reitem, c'est au temps passé. Vous avez vu. Quel? Atem reitem, Asher Asiti le Mitzrayim. Ce que j'ai fait à l'Égypte, et ensuite il y a marqué va et ça.
Et je vous porterai sur les ailes de l'aigle. Donc c'est
va et ça.
Oui.
Et ça, c'est ce qui
dit, oui.
Le va demande.
Alors est-ce que ici c'est un vave conversif?
Oui.
Ah oui. Toi, t'as dit. Tu sais que des fois c'est un vave conversif, mais, des fois non.
Mais si je dis, je dois avoir une raison pour laquelle je te dis. Donc je vais te la dire. Alors, ils sont arrivés là où
Dieu les a portés.
Là où Dieu, ils sont allés à la destination.
Oui, donc, j'ai bien compris. Mais alors quand est-ce qu'il les a portés sur des ailes d'aigle?
Depuis la sortie de l'Égypte.
Donc c'est ça que tu appelles les ailes d'aigle. Ça, ce que tu dis va tout à fait dans le sens de ce que va dire Rabbi Ovadia Sforno. D'un autre côté, Achiskoni, Paramban, ils disent que c'est pas un vav conversif, que c'est un vav de liaison. Et donc c'est ton futur.
Je vous porterai.
Je vous porterai.
Et vous amènerez à moi?
Voilà.
C'est
la première fois que tu vois une prophétie qui parle aussi de l'avenir. C'est pas un problème, ça. C'est-à-dire, ça peut être, comme tu dis, ça peut être, comme ils disent. C'est un col de cédère. Dieu nous a amenés vers lui et Dieu nous amènera encore vers lui. Ma baya, adéraba, c'est encore mieux. Maintenant, ve'atem, ve'ata, c'est ça, le ve'ata, et maintenant, im shamoa tishmeu bekoli. Ushmartem et Beriti, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, veitem li segula mikola amim ki li kola haaretz. Vous serez pour moi une segula. C'est quoi l'alliance? Pour l'instant, il y a quoi comme alliance?
Et vous garderez mon alliance.
C'est quoi l'alliance qu'on a avec Dieu? On n'en a pas 36, hein?
C'est le
Brit. Britamila.
Britamila,
hein?
Les femmes, elles n'ont pas le...
D'accord, mais elles sont des mamans qui ont des fils.
Oui, ah, d'accord, c'est pareil.
On est tous ensemble dans l'histoire.
D'accord.
Okay.
Une petite question, je veux
oui.
Savoir si c'est sérieux. On dit qu'il y a des midrashim.
La Torah, c'est sérieux.
Il y a des midrashim qui disent que Dieu n'a pas les femmes avec une voix douce.
Ah oui, c'est
sérieux. C'est ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Mais quel est le problème? D'abord, ce n'est pas Dieu qui a parlé aux femmes, c'est Moshe qui a parlé aux femmes.
Dommage. Hein? Dommage.
De quoi?
C'est pas Dieu.
Ah, bah oui, ben voilà, je ne peux pas refaire le match. On a déjà assez de problèmes avec ce qui est marqué, tu ne veux pas que j'invente des nouveaux psukim. Bekitso, donc on doit être Ségoula. Mais c'est Ségoula.
Ah, remède. Non,
remède.
Ségoula, c'est
Alors, rien à voir avec les sgoulottes.
Ouais,
absolument rien à voir. C'est
un trésor.
Un trésor. Otsar Chaviv. C'est-à-dire, c'est, on est quoi? On est Ségoula Mikol Amim. C'est-à-dire qu'on est un peu de tous. En fait, si tu prends toutes les blagues, vous connaissez les blagues? Ouais. Un Français, un Belge et un Américain sur un bateau. Tu prends toutes ces blagues-là de trucs, tu mets tout dans un mixeur, ça va te sortir un juif. Ça a l'air. Ou plus sérieusement, nous dit le livre de Yechezkel, « Atem kruim Adam, ve'en umot haolam kruim Adam. » C'est-à-dire, vous êtes appelé Adam et les nations ne sont pas Adam. Ça veut dire. C'est-à-dire que nous sommes les héritiers de l'identité de Adam. Nous portons en nous cette identité commune qui doit être l'identité globale de l'humanité. Alors que les nations ne sont plus à Adam, à Shalem, ils sont une partie d'eux. Donc, Am Israël devient, si tu veux, le musée, les vestiges de ce qui était l'identité de l'unité de l'humanité. Donc, nous serons Ségoula Mikol Ha'amim. Alors, très bien. Maintenant, ça, c'est le projet. Voilà ce que Dieu a dit à Moshe. Va'atem ti'uli mamlechet.
Il faut aussi faire des nations.
Il est. Va'atem ti'uli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Elle est adevarim asher tedaber el bene Israël. Nous devons être également un royaume de kohanim, de prêtres, et une nation sainte. Vous connaissez, dans le peuple juif, il y a des kohanim. ces Kohanim font le lien entre qui et qui ? Entre Dieu et le peuple juif. Donc ça veut dire que si nous on doit devenir de manière globale un peuple, un royaume de Kohanim, c'est que le but du peuple juif est de faire le lien entre Dieu et les nations du monde. Nous avons un rôle de trait d'union. Nous ne sommes pas supérieurs, comme le Kohen n'est pas supérieur au Israël. Il est là pour faire la jonction entre les deux. Ok ? Donc notre rôle est évidemment de ne pas garder Dieu pour nous, mais de pouvoir dévoiler Dieu à toutes les nations. Pour cela, il faut être Goy Kadosh. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne s'agit pas de dévoiler Dieu à chaque individu chez les nations. Ça aussi, mais ce n'est pas le rôle du peuple juif. Le rôle du peuple juif en tant que tel, c'est de montrer que dans la dimension collective, on peut être également lié à Dieu et le dévoiler. C'est-à-dire, si je devais schématiser, je dirais que le rôle des religions, c'est d'apprendre aux individus comment s'attacher au divin. Certaines arrivent mieux à le faire que d'autres. Le rôle du peuple juif, c'est d'apprendre aux nations de s'attacher à Dieu.
Mais ça passe aussi par l'individu qui doit devenir...
C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Dans le peuple juif, il y a le peuple juif et il y a monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin, il peut faire des cours sur Internet, machin, pour apprendre à chacun comment, au niveau individuel, à se comporter bien. Mais Am Israël, il doit avoir une voix en tant que tel. Par exemple, c'est qui va porter la voix du Am Israël dans le monde ? Ben, c'est le chef d'État du peuple juif. C'est à lui d'apporter la parole au monde entier. Ah ben, s'il veut expliquer ce que la Torah elle, a enseigné dans sa relation à Dieu, il faut qu'il connaisse deux, trois choses, c'est évident.
Oui, c'est dommage. C'est pas le cas aujourd'hui.
Ah, c'est dommage qu'il ne le fasse pas assez.
Il a raté les occasions.
C'est dommage qu'il ne le fasse pas assez. On ne peut pas dire qu'il ne le fait pas du tout. Il le fait plus que beaucoup d'autres chefs d'État avant lui.
J'ai écouté à l'ONU, chaque fois qu'il était à l'ONU, il a parlé de l'homme Israël. De son héritage, etc. Mais quand tu as parlé de la chaîne, on dirait qu'il y a un petit problème.
Il y a beaucoup à rajouter et à refaire, mais on notera tout de même certaines citations du Tanakh sur les bancs de l'ONU. En général, ce sont des versets où il n'y a pas marqué le nom de Dieu, mais ce sont des versets du Tanakh quand même. C'est-à-dire, on se rappellera de Menachem Begin lorsqu'il fait son discours lors de la paix avec l'Égypte, il citera que viendra un temps où il n'y aura plus de peuple qui lèvera l'épée contre un autre peuple, les paroles de Ishaïa Hanavi. Mais évidemment que c'est pas fait assez, évidemment que c'est pas fait de manière officielle. Il faut à un moment donné se lever et dire Ko Amar Hashem. Nakhon. Bon ben Bezrat Hashem.
Oui.
C'est ça. Quoi ? Mais évidemment, c'est dommage, mais on ne peut pas perdre espoir. Et à un moment donné.
Non, on ne perd pas d'espoir, mais on perd beaucoup de temps.
C'est vrai qu'on perd du temps.
Le monde musulman
n'a pas de réticence à se reconnaître. C'est ça. Il faut arrêter d'avoir honte. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se. Donc, en d'autres termes, vous dites qu'il faut arrêter de se prendre pour des Occidentaux.
Oui, il faut que les politiques aussi. On voit la Cour suprême, je vois pas quelqu'un qui peut représenter dans la Cour suprême.
Mais qui t'a demandé que la Cour suprême, elle représente ?
Non, mais
la Cour suprême, elle n'a pas de rôle. La Cour suprême, une colle à cavode, elle doit, Bezrat Hashem, très bientôt disparaître. Attention, comme je suis filmé, je vais continuer ma phrase. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un état de droit. Bien sûr qu'il faut avoir un état de droit. Je vais essayer de finir ma phrase, parce que sinon, je ne sais pas comment ça va être repris, évidemment. Il est évident qu'on doit avoir un état de droit, bien sûr, sans aucun doute, et que la justice doit être rendue, et il faut une organisation qui soit là pour contrôler la justice dans ce pays, bien évidemment. Ce rôle-là doit être tenu par le Sanhédrin, et non pas par la Cour suprême, parce que, d'après moi, l'idéal du judaïsme, c'est, au niveau de la justice, le Mishpat à Ivri. Je précise tout de même, parce que lorsque je dis ça, les gens qui sont des gens qui aiment faire des polémiques, eh bien diront, eh ben voilà, Rav Etan Fison, il a dit, il est pour une Medinat Halakha, pour un état de la Halakha. Et en disant cela, eh bien les gens veulent nous faire penser que ceux qui disent Medinat Halakha, ce sont des gens qui veulent lapider tous les gens qui prennent la voiture Shabbat dans les rues, aux yeux et au gré de tous. Alors, le problème, c'est que les gens parlent et ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce qui changerait si demain, on faisait une Medina d'Alaha dans la vie de tous les jours? Vous savez ce qui changerait? Rien du tout. Shum davar. Pour la simple raison que Alpia Alaha, Yef Charles Kol, Shum Mechalel Shabbat. On ne peut tuer aucun Mechalel Shabbat. D'ailleurs, ça n'a jamais été fait, à part deux fois où ça a été fait contre la halakha. Pour la simple raison que d'après la halakha, pour réunir tous les critères qu'il faudrait pour condamner quelqu'un à mort, pas que pour Shabbat, hein, mais pour tous les sujets dans lesquels la Torah elle dit Chayav Mita, pour réunir tous les critères, eh ben, faut se lever pas seulement de bonne heure, mais aussi sur la lune. Donc la Torah, à aucun moment, elle pense que quand elle dit Chayav Mita, c'est utilisable. C'est juste pour nous montrer à quel point l'action est importante. Le Shabbat, c'est quelque chose de très important. Maintenant, dans les faits, eh ben, il sera mechalel Shabbat. C'est malheureux, mais c'est maïesh. Qu'est-ce qui va changer, par contre, qui est fondamental? C'est que la justice, l'autorité de la justice, tu ne le places pas seulement sur la perception et la compréhension d'un, deux, trois, dix êtres humains, aussi intelligents soient-ils, mais tu la bases sur la transmission de la volonté divine. C'est à col. Maintenant, t'inquiète pas, monsieur qui ne veut pas faire Shabbat, tu pourras continuer à ne pas faire Shabbat tant que tu n'en fais pas une manifestation exprès pour déranger le reste du pays, personne ne va t'embêter. Donc, oui, je suis pour que la haute cour de justice, ce soit le Sanhédrin. Bien évidemment, mais le Sanhédrin ne veut absolument pas dire qu'on devient des ayatollahs et qu'on ne laisse plus la liberté de chacun. Je rappelle que le judaïsme croit au libre arbitre et donc à la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Après, il devra rendre des comptes. S'il a fait des torts à son prochain, il devra rendre des comptes à son prochain. S'il s'est fait des torts à lui-même, il devra se rendre des comptes à lui-même. Et s'il a fait des torts à Dieu, il s'arrangera avec Dieu.
De toute façon, on le dit dans l'histoire que le Sanhédrin, il n'a jamais été ayatollah.
Ben évidemment, évidemment. Donc c'est pas un problème, il n'y a pas de risque à avoir. Maintenant, donc ça veut dire que, est-ce que je suis pour que la Torah, elle puisse s'exprimer? Bien sûr. Et est-ce que je trouve que... Donc, non, ça pourrait dire que, c'est même, de toute façon, ce n'est pas le Sanhédrin qui doit porter la parole au monde entier. C'est le représentant du peuple. Après, une fois que les gens du monde ont été émerveillés par la parole du représentant du Ham Israël, et ils décident de venir ici pour apprendre la Torah, alors il ira voir le Sanhédrin. Ça va? Donc, tout ça, ça se passe le premier Sivan. Ok? Pour l'instant, Moshe, il a été voir personne. Là, c'est juste le programme qui lui a été donné par Dieu. Donc, Moshe, maintenant, qu'est-ce qu'il se fait? Vayavo Moshe, vayikra lezikne ha'am. Ha! Moshe est venu et il a appelé zikne ha'am. Tu vois bien, pour l'instant, on ne nous dit pas qu'il est descendu de quoi que ce soit. Il est venu. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément voir sa première montée comme une montée physique. Là, il est venu. Et on ne dit pas qu'il est descendu.
Pourquoi le mot « montée » est utilisé là?
Parce que je te rappelle que « montée » dans le Tanakh, ça peut être aussi largement utilisé par une montée spirituelle.
On est d'accord. Donc, là, c'est la première fois. Jusqu'ici, Hachem lui parle, Moshe répond. Et là, tout d'un coup,
Dafka, il y a oui un autre moment où il est fait question de l'alot leola et l'objectif n'était pas justement de le monter physiquement.
Non, c'est pas la même chose.
Ah, pourquoi pas? Ah bon?
L'alot, c'est faire monter les holocaustes.
Mais pas encore, on n'a pas encore le livre de Vayikra. Quand on nous dit va aller ou sham leola, est-ce que c'était une montée spirituelle ou une montée physique? De Yitzhak, Yitzhak Avinu.
Oui.
Quand Dieu il a dit à Abraham, va aller au Sham Leola.
Parce que c'est l'expression qui est utilisée pour les.
Plus tard. Là, l'expression, c'est la halot.
On
on l'a ici.
Non mais, à l'époque d'Abraham, il n'y a pas encore les corbanotes. On ne nous a pas encore fait la liste des corbanotes du livre de Vaïkra. Donc quand Dieu il dit à Abraham, « T'as allé où auto léola ?» Qu'est-ce qu'Abraham il doit comprendre? Est-ce qu'il doit comprendre une montée physique? Ou est-ce qu'il doit comprendre une montée spirituelle?
Là, l'holocauste qu'on appelle l'holocauste,
oui.
C'est toujours l'expression montée
qui l'accompagne. Tu veux exprès de ne pas m'écouter ou quoi? Je suis d'accord avec toi.
Bon,
je dis juste que ça n'a pas encore été donné, ça. Le concept de Korban Ola n'apparaîtra que dans le livre de Vaïkra. À l'époque d'Abraham, je pose la question. On n'a pas encore vu de Ola à l'époque d'Abraham.
Depuis ce livre, c'est pas Vaïkra, c'est depuis Shemot.
De quoi?
La montée des Ola.
Oui, tu as raison. Mais dans tous les cas, ce n'est pas à partir de Bereshit. Donc ce que je veux dire, c'est que quand Dieu il s'adresse à Abraham, comment Abraham il doit comprendre? Va aller au Sham Leola, est-ce qu'il comprend le faire monter spirituellement ou le faire monter physiquement? Ce que je veux dire, c'est que dans les deux, ce terme était égal pour les deux dimensions. Il faudra voir simplement dans le contexte, est-ce que là il s'agit d'une montée spirituelle ou matérielle ou les deux? Ça peut être les deux également. Donc là simplement, Moshe vient voir les Bnei Israël et leur transmet la parole. Quand est-ce qu'il fait ça? Eh bien, nous dit le Talmud et le Midrash qu'il n'a pas fait ça le jour même. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle Chulcha de Urcha. Ils viennent de marcher longtemps, ils viennent de poser le campement. Quand Moshe, il a fini de recevoir le Wi-Fi de Dieu, il s'est dit, ils ne sont pas capables, ils sont trop fatigués maintenant pour entendre le programme. Donc, il les a laissés dormir et demain matin, il a réuni tout le monde et il leur a dit tout le programme. À ce moment-là, ça veut dire qu'il leur a dit tout ça, Bet Bessivan, le 2 Sivan. Ce qui explique la raison pour laquelle le Ham Israël, il fait le pont. Vous connaissez le concept du pont en France? Hein, très populaire. Eh bien, il y a le pont, le 2 Sivan. Parce que, je vous rappelle que Rosh Chodesh Sivan, on ne fait pas Tachanoun. Parce que c'est Rosh Chodesh. Ensuite, le 3, le 4 et le 5, on ne fait pas Tachanoun parce que c'est ce qu'on appelle Shtoshet Yemeh Agbala, les 3 jours de préparation au dévoilement. Mais pourquoi on ne fait pas Tachanoun le 2? Mais pourquoi?
Parce qu'ils se sont préparés pour le corban.
Mais les amis, je vous demande, avant d'avoir déjà dans vos têtes le contre-argument, d'écouter d'abord l'argument. Tu me dis, ils se sont préparés pour le corban. Eze corban barosh shelcha. Pour l'instant, ils se sont préparés à recevoir le dévoilement divin. Mais cette préparation, elle est 3 jours. Or, si le dévoilement divin, il est le 6. Eh bien, le 5, le 4 et le 3, 3 jours avant, on se prépare. Donc, pour ça, on ne fait pas Tachanoun. Le premier, on ne fait pas Tachanoun parce que c'est Rosh Chodesh. La question est, pourquoi on ne fait pas Tachanoun le 2? Pour ce qui est du 7, 8, 9, 10, 11 et 12, c'est ce qu'on appelle Yemei Atashlumim. C'est parce que ce sont les journées après Shavuot où on peut encore, pendant 6 jours, amener le Korban Chagiga. C'est-à-dire, Yemei Tashlumim. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun. Mais il n'y a pas de raison de ne pas faire le 2. Il y a fait. Donc maintenant tu comprends pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun le 2. Ce n'est pas qu'on fait le pont. C'est parce que c'est le jour où a été dévoilé au peuple juif que Anachnou Amzgoula. Et ça, ça vaut le coup de ne pas faire Tachanoun. Ok? Ok, super. C'est bon, c'est parti. Dieu Moshe a donné le programme au Bnei Israël. Ben, c'est génial, on peut y aller. Vayanu kol ha'am yardav. Donc là, tu vois que c'est plus seulement les anciens qui ont répondu, c'est tout le peuple. Ils ont tout expliqué au Bnei Israël. Et donc, tout le peuple, comme un seul homme, est venu voir Moshe. Et ils ont dit, Vayomeru kol asher diber Hashem na'ase. Tout ce que Dieu dit, on va faire. En d'autres termes, pas ce que toi, tu dis. On n'est pas prêt à écouter ce que toi tu dis.
Deuxième fois qu'ils lui disent ça.
Pourquoi? C'est quoi la première?
Ils n'ont pas déjà dit ça en Égypte?
Non.
Je me souviens qu'ils avaient déjà évoqué quelque
chose. En Égypte, ils étaient pas. Ils disent Dieu, il m'a envoyé, machin. Il dit, bah prouve-le. En Égypte, ils ont dit prouve-le. Et donc c'est pour ça qu'il y a des signes.
Il n'y a pas eu une fois avant?
Là, c'est là, c'est là. C'est là où ils disent, tu veux qu'on t'écoute? Tu dis que tu viens au nom de Dieu? Non.
C'est pas une baisse de confiance en Moshe quand il leur dit ça.
C'est extrêmement important qu'ils disent ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer grâce à la non-confiance aveugle des Béné Israël? S'ils avaient accepté ce que Moshe a dit, tu sais ce qui serait passé?
C'est Moshe qui devient Dieu.
Non, pas forcément, mais il n'y aurait pas eu le dévoilement de Dieu.
Ah.
Non, mais je ne vois pas où est la question.
Quoi?
Parce que là, à Moshe, il leur dit, voilà, Hachem, il a dit.
Et ils disent, tout ce que Dieu, il dit, on va faire.
C'est normal.
Parce que toi, tu dis. Parce que toi, tu dis. On n'est pas prêt à t'écouter, toi. Si jamais Dieu il veut nous parler, qu'il vienne nous parler. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter comme preuve du dévoilement un intermédiaire.
Je vois pas où, par exemple, si je dis, voilà, maman, elle a dit, va faire ci et ça à son enfant. Mm-hmm. Alors, l'enfant, il va le dire, ah, d'accord, je vais faire ce que maman elle a dit. Et là, c'est ce qu'il dit.
Oui, parce que l'enfant, il sait que maman, des fois, elle dit des choses. Sauf que là, le Ham Israël, on lui dit Yudke Vavke, il se dévoile. On n'a jamais vu ça. Donc s'il veut se dévoiler, qu'il vienne se dévoiler à nous.
C'est ça que ça veut dire, ça?
Ben évidemment. Tu serais prêt, toi, à accepter du jour au lendemain 613 mitzvot parce que quelqu'un t'a dit de le faire au nom de quelqu'un d'autre?
C'est pas du jour au lendemain, parce qu'ils ont tout quand même un vécu.
Shum Dava. Depuis Abraham, on ne nous a jamais parlé de la Torah. C'est la première fois qu'on nous parle du concept qui va s'appeler Torah.
Et pourtant, ils étudient la Torah.
Shum Davar, ils étudiaient la tradition d'Israël. Ce n'était pas du tout la Torah. Il y avait la Brit Mila, si tu veux. Il y avait Guida Naché, si tu veux. Mais c'était la tradition de leur famille.
Donc,
il ne s'agit pas du tout de la Torah.
Oui, mais la Moshé,
je
n'ai
pas bien compris. Moshé, il leur dit quoi? Il leur dit ce que Hachem lui dit. Nahon,
tu as raison, mais nous on connaît le film. Et
oui,
on sait que.
C'est comme si on ne connaît pas le film.
Oui, mais nous on connaît le film. Et n'oublie pas que lorsque les Bnei Israël reçoivent le Pentateuch, ils connaissent aussi le film. C'est-à-dire qu'on sait qu'au final, c'est ce qui va se passer. Dieu il va donner la Torah.
Oui.
Maintenant, cette Torah, moi je veux bien, mais pour que j'accepte que Dieu il me. Enfin, pour que j'accepte de me soumettre à la Torah, il faut que ça vienne de Dieu, il ne faut pas que ça vienne de Moshe. Qui me dit que ça ne vient pas de Moshe? Tu dis, ils ont étudié Hachem Ve'ever. Yaakov, à la limite. Mais là-bas, on n'enseignait pas Ilchot Mamrim. On enseignait là-bas la tradition du dévoilement. C'est-à-dire, mais ça, les Bnei Israël, ils ne l'ont pas vécu. Donc ils disent, moi, je veux bien, mais à condition qu'ils me parlent. Comment je sais que c'est exactement ce qu'ils disent? Ben, c'est la suite du verset, oui.
Les âmes d'Israël. Et là, c'est Kol âme d'Israël. Il y a une nuance.
Ben non, Kol âme, tu dis?
Oui, Kol.
Ah oui, c'est tout le peuple.
C'est quoi le peuple? Parce que est-ce que le peuple, c'est les Rémois?
Tout le monde.
Plus,
tout le monde.
Plus les Bnei Israël.
Pour l'instant, c'est tout le monde. Kol âme. Ok? Maintenant, les Bnei Israël, donc ils disent, on veut bien que lui il vienne, pas toi. Comment je sais que c'est la vérité? Bah parce que c'est la suite du verset, tout simplement. Ils disent, Vayomrukol Asher Diber Hashem Naase, Vayomer, Vetra, Vayashev, Moshe, Divrei Ha'am El Hashem. Donc, Moshe, il a rapporté les paroles du peuple à Dieu, et il leur a dit, ils ne veulent pas, ils veulent toi. Réponse de Dieu, Vayomer Hashem El Moshe. Ah ben super! Ine Anochi Ba Elecha Be'a Ve'anan, Ba'avur Yishma'am, Bedabri Imar, Ve'gam Be'chaya, Minu Le'olam. La preuve, que ce que j'ai dit, c'était vraiment ça qu'il demandait, c'est que c'est ça la réponse de Dieu. Il dit, bah, très bien, donc dis-leur, je viens. Et ils vont m'entendre. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont demandé.
Hein?
Et ils vont m'entendre te parler. Alors, effectivement, je vais continuer là-dessus. Mais ça veut dire qu'ils voulaient effectivement entendre Dieu. Après, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ça, c'est un autre débat. Mais ils veulent entendre Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'ils veulent le dévoilement. Ils ne sont pas prêts à accepter comme preuve du dévoilement, un intermédiaire. Pourquoi? Eh bien parce que accepter l'idée que le Créateur du monde parle, tant qu'il ne m'a pas parlé, ce n'est pas acceptable. Parce que ça n'existe pas que le Créateur se dévoile à la créature jusqu'à présent. À part dans certains cas où celui à qui il y a eu le dévoilement, il n'est plus là pour témoigner. dans le Maboul, dans le déluge, il y a eu un sacré dévoilement. Mais tous ceux qui ont vu ce dévoilement ne sont plus là. Et celui qui a survécu, il n'a pas vu le dévoilement, il était dans la boîte. Pareil pour les Égyptiens, qui ont vu le dévoilement des Kriat Yam Souf. Ils ne sont plus là pour en parler. Pareil pour les Diplés. Donc on a besoin, maintenant, d'un véritable dévoilement sans intermédiaire.
Mais là, quand tu dis, quand ils ont traversé, les Égyptiens, ils ont vu le dévoilement et ils n'ont pas vécu.
Nahon, exactement. C'est pour ça que nos sages nous disent que Ra'ata Shifra Alayam, on a vu ce que, dans la mer ce que n'a pas vu le prophète Ézéchiel, seulement juste après, amnésie collective. C'est-à-dire que la Shifra, elle est redevenue Shifra, et Yeheskel est resté Yeheskel à Navi. Donc c'est quelque chose qui était un pic d'un moment, on n'a pas su comment le gérer. Et donc on veut un véritable dévoilement.
Une petite question là, oui.
Non, c'est pas que avant qu'ils, une fois que Dieu leur a parlé, ils ont eu peur qu'il continue.
Oui.
Tu m'étonnes, Dieu qui parle, c'est autre chose. Ça, on va y venir. Donc, ça veut dire que Bnei Israël ne sont pas prêts à accepter comme preuve du dévoilement autre chose que le dévoilement lui-même. Ok ? Parce que, encore une fois, le dévoilement au Mont Sinaï, c'est ce que nous explique le livre du Kuzari, que la seule preuve véritable du dévoilement ne peut être que le dévoilement lui-même. Pour la simple raison que c'est quelque chose qui, tant qu'il ne s'est pas passé, n'est pas inventable. De dire que le créateur parle à la créature, s'il ne l'a pas fait, tu ne peux pas l'inventer. Parce que dans notre univers, la notion de création est étrangère aux lois de la physique. Dans la physique, on te dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La notion de création ex nihilo est un concept étranger à la science moderne. Par contre, c'est le concept de base du judaïsme, que Dieu a créé. Pour que maintenant Dieu se dévoile, eh bien ça ne peut pas passer par autre chose que le dévoilement lui-même. Donc c'est ce qu'il dit de Bnei Israël. On est prêt à accepter si c'est lui qui vient. Et donc le projet de Aseret HaDibrot, c'est de cristalliser dans le cœur, le cerveau, l'être tout entier du peuple juif, que Dieu parle. À qui ? D'abord qui parle. Et ensuite, il va parler à Moshe. Et le but du jeu, c'est qu'on entende ce qu'ils disent à Moshe. Pourquoi ? Dit le Rambam, pour que lorsque, après, Moshe vienne nous dire, bon, voilà, Dieu, il a dit 1, 2, 3, les Israélites disent, ouais, nakhon. Effectivement, c'est vrai, tu ne nous mens pas. Et à ce moment-là, il y a marqué, Vegam Becha Yaminu Leolam. Il y avait déjà marqué, au moment de Shirat Hayam, Vaya Minu Ba Hashem ou Ve Moshe Avdo. Dit le Rambam de l'Hilchot Yesodé Torah que quand ils ont dit Vaya Minu Ba Hashem ou Ve Moshe Avdo, c'était une émouna que, effectivement, Dieu il peut nous sortir d'Égypte. Mais ce n'est pas une émouna à fond. C'est émouna, on peut douter après. Et surtout de Moshe, on peut douter.
C'est pas vécu, quoi.
Voilà. Alors que là, Vegam Becha Yaminu Leolam.
Est-ce qu'on peut se dire que c'est une émouna basée sur ce qui est dit? C'est-à-dire,
oui.
Moshe, il va dire aux gens, mais les gens, comment vont-ils, sur quoi vont-ils s'appuyer pour dire que c'est sûr?
Bah parce qu'ils ont entendu.
Voilà.
Exactement.
Parce que le dévoilement, ils l'ont eu. Là, il s'agit des paroles.
C'est-à-dire que là, ils savent que ce n'est pas des blagues.
De l'enseignement.
Là, c'est des paroles. Des paroles avec des mots.
Mm-hmm.
Oui, c'est pas genre on a compris ce qu'il veut dire. C'est vraiment des mots. Il a dit des mots en hybride.
Oui. On va les lire, les dix
commandements.
On va les lire.
Voilà.
C'est un dévoilement. C'est pas une perception. C'est pas un chamboulement des lois de la nature. C'est Dieu qui parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui parle? Je peux pas te dire.
Non.
Je l'ai pas vécu, donc je peux pas te dire.
Si on l'a vu.
Oui.
Non ?
Oui, certainement, au niveau de Manishama. Je ne me souviens pas.
Parce que nous, maintenant, on ne l'a pas vécu comme ça.
Voilà. Donc, dans notre conscience, on ne s'en souvient pas.
Mais c'est en nous ?
Peut-être. La prochaine fois qu'il te parlera, tu me diras si tu as une impression de déjà vu. C'est pas drôle, c'est vrai.
Je demanderai demain.
Pourquoi tu demanderas ? À qui tu demanderas ?
À lui.
Je pas compris.
Je parle tous les jours.
Oui, mais lui, il te parle tous les jours.
Ah,
lui, il te parle.
Il me répond.
Il te répond.
Oui. Enfin, il me répond dans la.
Non, parce que.
Dans ma vie.
Il y a une mahlaka dans un hôpital à l'entrée de Jérusalem qui s'occupe de gens comme ça, ouais. Qui pensent que Dieu leur parle.
Oui.
Je ne sais pas si tu as vraiment envie d'aller là-bas. Je ne sais pas si tu as envie d'aller là-bas.
Pour rencontrer les gens.
Voilà. Les amis. Peut-être que tu es en train ici ce soir de te dévoiler aux millions d'internautes en tant que prophétesse.
Et c'est la mort si elle dit. Si c'est...
Non, après, non, si tu te revendiques comme prophétesse, on va commencer à vérifier.
Non, mais franchement, ici à Jérusalem, enfin, nous, ça fait que 2 ans et demi qu'on a fait notre
année. Oui.
Mais je sens une proximité avec Hachem.
C'est pas la question. Est-ce que Dieu te parle?
Il me répond dans.
Dieu, il te répond. Il te dit, salut, comment ça va?
Non, mais il me répond.
Il te parle ou il te parle pas?
Il me répond dans les choses concrètes.
Il te répond rien du tout. Tu as une perception et tu as envie de voir la main de Dieu dans ce qui t'entoure.
Je vois la main de Dieu.
Mais il y a fait. C'est toi qui vois.
Mais... Non, mais c'est sûr.
Dieu, il t'a parlé?
Non.
Dieu, il t'a parlé? Non, ça n'existe pas pour l'instant. La prophétie, pour l'instant, elle n'est pas revenue. Voilà, il n'a pas encore ramené la prophétie. Ça viendra. Ben que c'est où ? Il n'y a pas encore de prophétie. Sur quoi on se base ? Qu'il n'y a personne qui s'est révélé comme prophète. Mala Asot.
La personne, elle ne va pas dire, je suis prophète.
Ben alors sinon, ça ne sert à rien qu'elle soit prophète.
Elle va dire des choses.
Si, ça s'appelle se révéler comme prophète.
Il faut que ces choses se réalisent.
C'est-à-dire, pour que quelqu'un il puisse prétendre au titre de prophète, il faut d'abord et avant tout qu'il dise « Ko amar Hashem ». Dieu m'a dit 1, 2, 3, 4, 5. Si tu commences à faire ça, alors tu nous intéresses et on va commencer à vérifier. On va d'abord te...
Hein? Sur quelle base?
Ah bah, sur les bases qui sont mentionnées dans la halakha. Quoi? Quel est ton problème?
Mon problème, c'est que quand on sait qu'il y a eu des prophètes qui n'ont pas été reconnus, qui ont été persécutés et même tués.
Qui?
En Israël.
Qui?
Qui? Il y a eu plusieurs. Esaïe, il y a eu.
Il n'était pas reconnu?
Il y a eu Jérémie.
Attends, il n'était pas reconnu?
Par les gens?
Il était reconnu à fond? Par tout le monde! Ils ne l'ont pas écouté, c'est autre chose. Mais il était reconnu comme prophète, même par les rois qui l'ont massacré. Quand Ménaché. Il tue Ishayahu Anavi, ouais. Son grand-père d'ailleurs. Là, je parle de Ishayahu. Ouais. Tu vois, après on parlera d'Irmiyahu. Ça a l'air. Mais quand il tue Ishayahu Anavi, qu'il le met dans un tronc et qu'il le scie, ouais. Ça a l'air. Il sait que c'est un prophète. Oui, il sait que c'est un prophète, mais il n'a pas envie d'écouter. Pareil pour Irmiyahu, quand il se fait jeter dans la prison par Tzidkiyahu, personne ne remet en cause que Irmiyahu, c'est un prophète. Personne.
Il y a eu, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est venu contredire.
Tu parles de Hanania ben Azur.
Oui.
Oui.
Enfin, je pense que c'est lui.
Je pense aussi.
Alors, lui, il passait pour le vrai prophète et Irmiyahu pour le faux.
Mais c'était son but à Hanania, de faire passer Irmiyahu pour le faux.
Oui, ils l'ont cru.
Ils l'ont cru. Vous savez pourquoi? Parce que nous dit le Talmud qu'à la base, Hanania ben Azur, c'était Nevi Emet, au début.
Ouais.
Et puis après, il a décidé de partir en cacahuète.
Ouais. Mais je
veux dire,
c'est un exemple.
C'est pas pareil. Il était Nevi Emet. Et il a voulu, après, se servir de son statut pour ses intérêts. Et donc, les gens, ils l'ont cru, parce qu'au départ, il était reconnu comme un vrai. Donc, si après, il est parti en cacahuète, ben c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas parce que des gens n'ont pas écouté le prophète qu'il n'était pas reconnu comme prophète.
Non, là, c'était pas la question d'écouter ce qu'il dit, mais le fait de le reconnaître en tant que le prophète.
Non, il n'y a pas le prophète. À l'époque de la prophétie, il y a plein de prophètes.
Oui, mais
je comprends ce que... Et Jérémie... Et Jérémie, il est reconnu par le peuple juif comme étant Navi. Et Hanania, il est reconnu comme étant Navi. Parce que les deux, ils sont au départ Navi. Le problème, c'est que Hanania ben Azur, à un moment donné, pour des raisons politiques, il veut faire penser que Jérémie, c'est un menteur, pour que lui, son avis, soit mis en avant.
Et ils l'ont cru.
Mais ça, mais ce que je dis, mais il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont une base sur laquelle se baser. Le fait est qu'au départ, Hanania ben Azur, ce n'était pas un menteur. Il avait été reconnu par, en l'occurrence Jérémie, comme étant un vrai prophète. Ce que je veux te dire, c'est que quand quelqu'un est Navi, il est reconnu comme tel ou pas.
Là, ce n'était pas. Ils n'ont pas reconnu.
Mais non, ils n'ont pas. Mais pas du tout. C'est faux. Excuse-moi. Ils ont. C'est pas parce que.
Il a réussi à leur faire croire.
Mais ça n'empêche qu'ils pensaient quand même que c'était un prophète. Je ne suis pas d'accord que lorsque tu me dis que finalement ils ont accepté l'avis de Hanania et ils ont donc balancé Jérémie dans le trou pour ne pas l'écouter et ils ont préféré écouter l'autre, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là ils pensaient que ce n'était plus un prophète. Ils pensaient que c'était toujours un prophète, mais ils ne voulaient pas entendre lui, ils voulaient entendre l'autre. D'accord. Maintenant, il y en a plein des prophètes qui n'ont pas été écoutés. Ce n'était pas un prophète. Le prophète n'est pas quelqu'un qui dit l'avenir. Ça, c'est Madame Irma. Maintenant, des fois, elle a raison, des fois, elle a tort. Le Rafouk n'est pas non plus un prophète. Ah, il voit très très loin, c'est évident. Il a une vision qui est beaucoup plus aiguë que la mienne, c'est évident. Ça s'appelle Ruach HaKodesh. Effectivement, le Rav Kook, il va dire de lui-même qu'il ressent les premières bribes de quelque chose qui ressemble à la prophétie. Mais, ze odlo nevoa. Navi, c'est pas quelqu'un qui parle à Dieu, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Et c'est très différent. Maintenant, nous tous, on parle à Dieu trois fois par jour, mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous parle. C'est-à-dire qu'on a envie de voir son dévoilement au quotidien par Baruch HaShem, mais c'est uniquement parce qu'on est des bons religieux, non, et qu'on, bien sûr, et qu'on... Mais... Si.
C'est peut-être parce qu'on voit son dévoilement...
Si tu me permets de finir ma phrase, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. C'est parce qu'on est des bons religieux qui vont être éduqués par la culture judéo-chrétienne, qui nous a expliqué qu'il y avait un dévoilement de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que tu sois quelqu'un qui a grandi à Mea Shearim ou comme moi qui a grandi à Metz, pas dans un cadre religieux, il n'empêche que culturellement parlant, j'ai grandi dans une ambiance, que ce soit au niveau familial, au niveau communautaire ou au niveau sociétal, que Dieu a créé le monde et que Dieu s'y dévoile. Des fois, c'est le rabbin qui a dit ça. Maintenant, comme j'ai grandi dans cet environnement-là, eh bien, lorsque je vois des choses qui sont des concours de circonstances ou des choses magnifiques, eh bien, tout de suite, j'ai envie de le rattacher à Kadosh Baruch. C'est fait meod, je suis pour, c'est très bien, moi aussi je le fais. Mais ce n'est pas cela que s'appelle ni la prophétie, ni le dévoilement sans intermédiaire. C'est-à-dire,
c'est une communication quand même.
C'est une intuition que j'ai qui est due à mon éducation, qu'elle soit directe ou indirecte.
Donc c'est imaginatif.
Exactement, exactement. Et des fois, c'est faux.
C'est grave.
Bah, c'est pas grave, c'est une réalité. On se base sur ce qu'on a reçu de nos maîtres et de nos pères, de nos parents, de nos grands-parents, et ainsi de suite, qui nous permet de nous attacher à. Hein ?
Alors, c'est pas le émet ?
Des fois, on peut se tromper, tout à fait. Des fois, non. Mais des fois, on peut se tromper. Des fois, on pense que c'est le dévoilement de Dieu, alors que c'est juste une éclipse lunaire. Ça peut arriver aussi. Il y a eu plein de gens qui ont pensé qu'il y a eu des phénomènes météorologiques, ils ont dit c'est la main de Dieu, alors que finalement c'était à Olam Keminago Noël, seulement tu n'avais pas les Kélim pour le dévoiler.
Oui, mais ça c'est aussi la main de Dieu.
Ah, il y a fait. Donc toi tu es en train de dire Dieu se dévoile de manière naturelle. C'est ça d'ailleurs. Mais c'est pas la névoie. C'est tout ce que je dis. Que Dieu il gère son monde, c'est une évidence. Bien sûr que Dieu il gère le monde à chaque instant. Mais c'est pas pour ça que Dieu il parle à chaque instant. Et le jour où il te parlera, t'inquiète pas, tu le sauras. Non, mais même. C'est-à-dire que quand t'es Navi, t'es Navi. Alors effectivement, il y a un petit moment pas sympa à passer, c'est le moment où on doit authentifier ta prophétie. Effectivement, ça demande une petite vérification intratique, ça demande qu'on aille vérifier ton compte en banque, ça demande qu'on vérifie si tu es Gibora, si tu es Chachama, donc on te fait un test de culture générale. Et après cela, on demande de nous donner soit un miracle, soit une prédiction d'avenir. Et si tout s'avère comme étant véritable, eh bien, à ce moment-là, on peut te considérer comme prophète. Et donc, on va devoir écouter ce que tu dis au nom de Dieu. Si il manque une des caractéristiques, eh bien, tu seras mise à mort.
Pourquoi le compte en banque?
Ah, parce que En Nevoa Shora Ela Al Chacham Gibor Ve'Ashir et Kva Koma également. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs critères pour pouvoir Bichlal prétendre être éligible à la Nevoa. Ces critères-là sont une indépendance totale dans tous les domaines de la vie humaine. Pour que tu ne sois pas quelqu'un qui se rattache au spirituel en détachement de ce monde-ci. Donc il faut que tu sois d'abord intelligent, sois pas un teubé. Il faut que tu sois quelqu'un qui arrive à gérer tes pulsions, parce que comme tout être humain, tu as des pulsions, mais il faut être capable de les diriger. Et il faut que tu sois quelqu'un qui, dans ce monde-ci, soit quelqu'un qui est indépendant dans ce monde, c'est-à-dire au niveau financier. Il faut également que tu sois quelqu'un qui en impose au niveau de ta stature.
Ce côté financier, bancaire, on ne voit pas ça dans le Tanakh. Il y a des prophètes qui ont eu besoin d'être assistés par quelqu'un d'autre.
Qui ?
D'être aidé.
Qui ?
Elisha.
Oui.
Il a été accueilli, logé, nourri.
Qui t'a dit qu'il avait besoin ?
Il avait besoin puisqu'il était là. Il a été accueilli.
Il a été accueilli, ça ne veut pas dire qu'il avait besoin. Je t'invite à regarder tout ce qui se passe chez les rabbins aujourd'hui, qui ne sont pas prophètes, mais qui, lorsqu'ils arrivent quelque part, on leur fait un kavod gadol, on leur donne la meilleure chambre, on leur donne un deux. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont besoin. Mais c'est parce qu'on a envie de faire du kavod. Cette femme, qui est une femme extraordinaire là-bas, qui veut s'attacher des services d'Elisha. Elle veut s'attacher au prophète. Donc elle lui donne un kavod extraordinaire. Et Elisha, il est très content. Mais ça ne veut pas dire que sinon il mourrait de faim. Il a fait. J'ai pas dit qu'il devait être forcément Rothschild. D'ailleurs, il doit être.
Ce côté financier, c'est ça.
Il doit être dans la pleine possession de sa vitalité. Or, le fait d'être quelqu'un qui ne demande pas de la tzedaka, c'est fondamental pour être quelqu'un qui est en possession de ta vitalité. Si tu es constamment en train de demander l'aumône aux gens, eh bien, tu as un manque dans ta vie. Ce manque dans ta vie n'est pas propice à la prophétie. La prophétie, c'est Shlomo Tachaïm.
Parmi les conditions,
oui.
Qu'est-ce que toi, tu n'as pas ?
Qui t'a dit que j'étais riche d'abord ? Peut-être que je suis en minus. Peut-être que je suis en rouge. Ah, si je suis en rouge, je dépense plus que je ne gagne.
Non, est-ce que Eliyahu avait 200 000 ? Non.
Ah, ben je sais pas, tu connais son compte en banque ?
Il avait
tu connais pas ?
Non.
Maintenant, est-ce que. Tu veux me dire que je suis riche ? Non, mais c'est ta chaîne ? Est-ce que je suis Gibor ?
C'est dont il y a besoin.
Mais c'est à dire, est-ce que je suis Gibor ?
Oui.
Je crois pas. Pourquoi ? Je crois que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre sur moi-même et pour calmer mes excès de colère avec mes enfants. Si tu veux tout savoir sur ma vie.
Et donc,
je pense que je ne mérite certainement pas, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, il y a plein d'autres niveaux où je ne mérite pas, hein, t'en fais pas. Mais je pense qu'au niveau de la Gevura, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Au niveau de la Chochma, je suis nul en maths.
Même Moshe, ça me fait en colère.
Alors, c'est un surhomme, un prophète, c'est un surhomme.
Donc, ce côté-là.
Les amis, calmez-vous. Mon cher Abenou, il s'est mis en colère une fois. Moi, je me mets en colère une fois par heure. Alors, Seder, venez, calmons-nous. On va pas se comparer à mon cher Abenou.
Calme-toi, tu exagères.
À propos de Moshe ou à propos de moi ?
Donc, si un prophète vient te voir et tu dis, j'ai pas de moyens de m'acheter un appartement, tu croiras
pas ? Ah, bah ça remettra en cause sa capacité à être prophète, bien évidemment. Maintenant, c'est possible que tu sois prophète, parce qu'au départ, tu avais toutes les qualités qu'il faut, et puis, il s'est passé plein de choses et tu n'es plus au niveau. Bah, semble-t-il qu'à ce moment-là, tu ne prophétiseras plus.
Je pense qu'il y a des connaissances, on n'a jamais fini d'apprendre.
Ouais, mais il faut un minimum quand même. Un minimum quand même.
Non,
il y a marqué aussi qu'il faut être gvakoma. Il faut être grand de taille.
Grand de taille.
1m76.
Non, mais attends.
1m76, qu'est-ce qu'il y a ? Et je vais te dire, j'ai un autre truc qui fait que je ne peux pas être prophète. J'ai un autre truc, c'est que j'ai jamais prétendu être prophète.
Mais justement.
Parce que je pense que Dieu ne m'a pas parlé encore.
Ah, mais peut-être que tu n'écoutes pas toujours.
Je pense que s'il m'avait parlé, je le saurais. C'est vrai.
Parce que le
dimanche prochain, on avait un
signal que Shmuel ne savait pas que c'est Dieu qui lui parlait.
Certes, mais il avait quand même compris que quelqu'un lui parlait.
Oui.
Bon, ben, je me suis jamais réveillé dans la nuit et on m'a dit « Ethan, Ethan ». Non, jamais personne m'a fait ça. Ou alors, si quand on m'a fait ça, j'ai très vite compris que c'était ma femme qui était en train de le faire comme ça. C'est-à-dire, donc c'est pas... Alors tu peux dire « Je prendrai ma femme pour Dieu, pas de problème, c'est-à-dire qu'elle sera contente ». Donc non, les amis, je ne suis pas prophète. On ne sait pas ce que l'avenir a nous réserve, puisque nous dit le prophète Yoël que viendra un jour où Dieu se révélera et parlera à tout le monde. Peut-être que Bezrat Hashem, hein, on va tous devenir prophètes à un moment donné, mais pour l'instant, j'y suis pas.
Je peux te dire ma conviction, c'est que quand Hashem va te parler, il va te parler.
Ouais.
Il ne va pas
amener des conditions dans ta vie. Il va te parler directement.
Oui, mais pour qu'il me parle, il faut que je sois au niveau, qu'il me parle.
Non, mais pourquoi on met toutes ces conditions-là, 1m70, 80
Est-ce que je peux donner un élément de réponse?
Vas-y, dis-nous.
Hachem, il ne fait pas de différence en fait.
Qui te dit?
Non.
Oh, il y a une étude.
Par une de mes profs aux États-Unis, qui est allée voir plein de CEO, de chefs d'entreprise, et elle avait essayé de corréler les données physiques à la capacité d'être vu comme un leader. Et elle avait vu qu'effectivement, quand tu es petit et gros, tu as moins de chances de peser que quand tu es grand. Et enfin, elle a dit, on remarque une plus grande... Il y a plus de gens qui ont 1m80 et plus parmi les CEO qu'il y en a dans la population normale. Donc ça veut dire que oui, les gens d'un mètre 80 ou plus qui sont fins, on les est
enfin. Seulement, David Ben-Gurion contredit le pronostic. Voilà, saute. Je te rappelle, non, mais je te parle de Ben-Gurion. Mais enfin, je ne sais pas qui c'est ta prof. Mais enfin bon, ça me paraît complètement un petit peu tiré par les cheveux. Je te rappelle que Napoléon, il n'était pas super grand non plus. Excuse-nous.
Attends, tu prends ça. Je peux te citer François Ier qui faisait 2 mètres.
Tu l'as vu?
Non, mais j'ai lu.
Non, ça, j'en sais rien, c'est l'autre chou.
Napoléon, on
ne
pouvait pas lui dire
qu'à
ce
poids,
tu fais
1m60. Il a étudié, c'est pas le débat. Il y a Choliot que tu as raison, je te fais marcher.
Les Koanim, on leur demande
d'être
grand et fort.
Non.
Peut-être pour le balancement, je
ne
sais pas.
Il faut pouvoir lever la viande.
Les amis,
pas chou. Il faut avoir une plénitude dans la vitalité. La névoa, le dévoilement de Dieu, passe par des forces de vie qui sont au top. C'est quelque chose qui est audible en termes de compréhension. C'est-à-dire que si on parle du dévoilement de celui qui est la vie, eh bien, ça doit résider dans une vitalité. Les conditions qui sont demandées par la halakha sont en fait tout simplement les conditions d'une vitalité pleine et entière. Que ce soit au niveau spirituel, intellectuel, que ce soit au niveau de tes midot, et que ce soit au niveau de ta domination de ce monde. Donc c'est pour ça qu'on te parle de ces conditions-là. Quelqu'un qui est malade, avec des midot pourries, et qui d'un autre côté fait la manche tout le temps, tu vois qu'il a un problème au niveau de ses forces de vie. Donc, c'est logique que le rapport avec la vie, eh bien, soit problématique. Donc, on te donne ici des critères dans la halakha qui font que simplement mettre en évidence une plénitude de l'être humain en question. Zéakol. Zéakol. Donc, voilà, le programme, oui.
Changer de sujet.
On a déjà pas mal changé de sujet.
C'est Hachem qui parle à Moshe. Moshe qui répond donc à Hachem. Hachem dit, va au peuple, demande-leur de ce qu'ils pensent. Oui, nous sommes d'accord pour t'entendre. Oui, donc il y a une sorte de lourdeur, entre guillemets, de lourdeur. Alors la question que je pose, est-ce que ça va se passer de la même manière lorsqu'il y aura Mashiach dans ce rétro?
Très bonne question, et à cela je répondrai la réponse du Rambam. Afechad, personne ne sait comment ça va être. Tant que ça ne sera pas. Et dès que ça sera, on saura. C'est-à-dire ? Donc voilà, ça y est, c'est prêt. Dieu, il a dit, je viens vous parler à Kolbe Seder. Seulement, il va falloir une petite préparation pour recevoir la parole de Dieu. Quelle va être cette préparation ? Eh bien, nous verrons la semaine prochaine.